Je m'appelle Anita Ounali Tabakanga. Je suis rescapée du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Je vais débuter mon témoignage en vous présentant ma famille, puisque nous sommes ici pour honorer la mémoire des victimes du génocide. Ensuite, je partagerai avec vous mon parcours durant cette tragédie. Je viens d'une grande famille de 9 enfants. J'avais 5 sœurs et 3 grands frères. J'étais la 8e de cette grande fratrie, dont aujourd'hui il ne reste plus que 4 filles. Avant avril 1994, cette grande famille de 9 enfants était divisée en 3 catégories selon l'âge. Les 3 aînés de la famille, Editha Wamezi, Serge Tadiengwa et Régis Luzindana, allaient déjà à l'université. Les 3 du milieu, à savoir ma sœur Denise, mon autre sœur Madoudou, Ariette, et notre frère Olivier allait à l'école secondaire. Puis venait le dernier groupe de plus jeunes dont je faisais partie. Ce groupe était composé de ma grande sœur Josiane, de moi-même, ainsi que de notre petite sœur Chuzuzo, qui n'avait que 7 ans à l'époque. Mes parents, Étienne et Géraldine, dirigeaient une petite entreprise familiale, une usine de fabrication de clés scolaires qui était située à Kabouye, dans la région de Javana. Mais avant cela, mon père, Étienne, avait travaillé à la Banque nationale, puis à la Banque commerciale du Rwanda, entre autres. Cependant, sa carrière n'a pas pu progresser en raison des politiques discriminatoires basées sur le système des quotas qui limitaient l'accès des Tutsis à l'éducation, aux emplois publics et aux postes de responsabilité. Mon père a fait preuve de courage en décidant de créer sa propre entreprise malgré les débuts très, très difficiles. Sa détermination et son courage exceptionnel lui ont permis peu à peu de se faire une petite place dans le monde des affaires, de petites entreprises, lui et mes amis. Ma mère Géraldine était une femme douce, attentive aux autres, surtout très sensible à la cause des orphelins et aux pauvres. Elle était croyante et pratiquait beaucoup sa foi catholique. À chaque fois, d'ailleurs, que j'évoque sa foi, je ne peux pas m'empêcher de penser avec sourire. Je pense avec beaucoup de nostalgie à un rituel qu'il avait instauré dans le quartier de Bidjogo à Nyamirambo. Un quartier pourtant peuplé par une grande majorité de musulmans. Ce rituel était que, à l'heure de 18h du soir, c'était connu comme dans tout le quartier, c'était connu comme l'heure de la prière. Les voisins se joignaient à la famille pour une prière en récitant le chapelet. même les musulmans venaient. On avait donc de bonnes relations avec tous les habitants du quartier, sans distinction d'ethnie, d'origine ou même de religion. Un jour d'octobre 1990, peu après les attaques du FPR, nous sommes rentrés de l'école pour découvrir notre maison mise à sac. Des militaires et des policiers avaient mené une perquisition prétendant rechercher des fusils soi-disant cachés par le FPR. Bien sûr, ils n'ont rien trouvé, mais cela ne les a pas empêchés d'embarquer ma mère et mes grands frères, Serge et Régis. Par chance, mon père a pu s'échapper de vitesse en escaladant une petite clôture qui séparait notre maison de celle de mon oncle Joseph. Quant à mes frères, Serge et Régis, ils ont été jetés en cachot pendant 3 jours, soumis à des tortures destinées à leur faire avouer une complicité avec le FPR et à révéler la cachette de mon père. Lorsqu'ils ont été libérés après 3 jours, ils étaient méconnaissables. Leur visage était tuméfié et plusieurs de leurs côtés étaient fracturés. Tout ça témoignait de l'horreur qu'ils avaient endurée. L'absence de mon père, considéré comme un traître par les autorités, a visiblement mis mal à l'aise les policiers. Dès lors, toutes les excuses étaient bonnes pour multiplier des perquisitions incessantes chez nous, à toute heure du jour et de la nuit. Dans ces conditions, mon père n'avait pas d'autre choix que de rester caché, jusqu'à ce qu'un ami de famille qui s'appelle Jeanne, que nous remercions beaucoup, jusqu'à ce que Jeanne vienne le chercher en pleine nuit. Grâce à lui, mon père a pu traverser le pays et rejoindre le Burundi, pays voisin. À partir de 1990, le calvaire des Tutsis a commencé au grand jour. Persécution, agression morale et physique, tout cela se déroulait sous les yeux de tous dans les différences générales. Pour illustrer ces propos, je vais vous partager quelques drames qui ont frappé ma famille. Un jour, ma sœur Denise, alors qu'elle rentrait du lycée, elle a été sauvagement attaquée par des miliciens inélaramnés qui s'entraînaient dans le quartier. Elle a été rouée de coups et a laissé à l'abandon, gisant au sol, sous les regards indifférents des passants. Personne n'a levé le moindre doigt pour l'aider. Quelques jours plus tard, c'était mon frère Serge. Lui aussi, il a été pris pour cible, en pleine rue. Il a été violemment attaqué, agressé à coups de couteau au niveau de la cage thoracique et plusieurs de ses organes ont été touchés. Ses blessures étaient graves, il a dû être opéré en urgence et a enduré une longue hospitalisation au centre hospitalier de Kigali. Pendant qu'il se faisait tabasser et qu'il se débattait contre la mort, ses agresseurs, eux, rendaient très fort que tuer un cafard, c'est de se débarrasser des rejets. Même nous, encore trop jeunes pour saisir la gravité de la situation, Nous avons été victimes de harcèlement de la part de nos camarades, que ce soit dans la cour de récréation, dans la rue ou même en classe. Ils nous rejetaient sans cesse, ils nous humiliaient, ils nous traitaient d'ennemis du pays et de complices. Pourtant, à l'époque, je n'avais qu'une voix. La haine était si intense qu'elle ne se limitait pas aux agressions physiques et s'est même traduite par des attaques à la grenade contre notre maison. Confrontée à cette violence insupportable qui était permanente, nous avons été contraints de quitter temporairement notre quartier pour nous réfugier ailleurs. Toute cette maltraitance, même insignifiante en apparence, s'inscrivait dans une propagande systématique destinée à instaurer un climat de haine et à légitimer l'extermination de tous. Pendant toute la période où ma mère était en prison et mon père en cachette, puis en exil au Burundi, notre grande sœur Edita, l'aînée de la famille, alors âgée seulement de 23 ans à cette époque, elle a dû interrompre ses études à l'université de Butare pour prendre en charge toute la famille. Et quand, 6 mois plus tard, notre mère a été libérée, il a été décidé que toute la famille irait rejoindre papa au Burundi. Après s'être installée au Burundi et avoir pris nos marques dans notre nouvelle vie, 2 ans plus tard, en août 1993, c'était la signature des accords de paix d'Arusha. Cet événement a suscité une grande effervescence au sein de la communauté rwandaise du Burundi. Portée par cet élan, plusieurs familles de Bujumbura, dont la nôtre, ont pris la décision de retourner au Rwanda. Toutefois, par mesure de précaution, notre père est resté en exil car il était toujours activement recherché par le régime Hutu, qui le considérait comme ennemi de la nation et un grand soutien du FPR. À notre retour au Rwanda, tout semblait aller dans le sens tracé par les accords de paix d'Arusha. La présence des casques bleus de l'ONU rassurait la population. Leur mandat incluait la protection des civils. De nombreuses conditions semblaient être réunies pour nourrir l'espoir et garantir le retour à la sécurité. Malheureusement, cette apparente accalmie était trompeuse. Dans l'ombre, les extrémistes hutus préparaient minutieusement l'anéantissement des Tutsis. Des listes de familles Tutsis étaient déjà établies. Des fusils, des machettes et d'autres armes blanches étaient déjà distribuées, tandis que d'autres préparatifs sinistres s'intensifiaient en toute discrétion. Peu avant les vacances de Pâques, en avril 1994, notre quartier de Virgiogo à Nyamirambo a été secoué par de nombreuses perturbations suite au décès d'un des grands commandants de la milice Interahamwe de la région, un homme qui s'appelait Katumba. Face à l'angoisse qui s'intensifiait, Certains habitants du quartier ont cherché refuge à la cathédrale Saint-André à Nyamirambo. De son côté, ma mère a préféré nous envoyer chez notre grand-mère à Nyamata, dans la région de Bugesera, dans l'espoir de nous éloigner du danger croissant. Nous sommes restés à Nyamata avec notre grand-mère et notre tante Julienne. Toujours attentif aux informations diffusées à la radio, pour suivre la situation à Kigali et plus particulièrement à Nyamirambo. Un soir, alors que nous écoutions les nouvelles du soir, nous avons appris que la situation dans notre quartier de Biryogo se dégradait de plus en plus et que notre maison avait été de nouveau attaquée à la grenade. La peur nous a envahis, d'autant plus que nous n'avions plus aucune nouvelle du reste de la famille. Nous avons prié intensément, espérant que tout allait s'arranger. Deux ou trois jours plus tard, c'était déjà le 6 avril, vers le soir, nous avons été stupéfaits de voir arriver notre mère et notre frère Régis. Ils étaient venus nous chercher avec l'intention de partir pour le Burundi dès le lendemain matin. Malgré la détérioration de la sécurité, ma mère pensait que leur voie restait encore assez libre pour nous permettre de quitter le pays en toute sécurité. Je n'oublierai jamais ce soir-là. Cela faisait de longues semaines que nous ne nous étions pas retrouvés ensemble. On avait beaucoup d'histoires, d'anecdotes récentes à partager. On plaisantait même comme d'habitude. Notre enthousiasme a été brutalement interrompu par un appel téléphonique de mon père. D'une voix grave, il a annoncé que l'avion du président Habyarimana venait d'être abattu et que ce dernier avait péri dans l'attentat. Aussitôt, une réunion de crise improvisant entre ma mère, des aînés et mon père au téléphone. Bien qu'encore plus jeune et innocent, nous pouvions lire l'inquiétude grandissante sur leur visage. L'angoisse atteignit son sommet lorsqu'un bruit retentit soudainement contre la porte d'entrée. Quelqu'un frappait avec insistance. C'était un jeune qui autrefois faisait partie des enfants orphelins dont s'occupait ma mère et qui était ami d'enfance de mes frères, mais entre-temps il était devenu une larme. D'un ton grave, il demanda à voir ma mère et il lui annonça la mort du président, puis ajouta qu'il revenait d'une réunion où une décision épouvantable avait été prise, celle d'exterminer les Tutsis. Il nous révéla que des listes de familles à éliminer avaient été distribuées et que son groupe à lui avait reçu l'ordre de s'occuper de notre famille. Il a dit à ma mère qu'en souvenir de sa bonté, lorsqu'il était encore enfant, il ne pouvait ni nous tuer, ni laisser d'autres le faire. Il nous a alors exhortés à fuir immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. Dès qu'il est parti, ma mère nous a demandé de superposer des vêtements et a fait de même. Elle a mis aussi, en plus, son chapelet autour de son cou. Elle nous a serré fort dans ses bras et a demandé à mes grands frères de fuir et d'aller le plus loin possible. Il était environ 3 heures du matin lorsque nous avons quitté notre maison, notre cocon familial. Nous sommes partis sans savoir vraiment où aller, errant de porte à porte, tandis que ma mère suppliait les voisins d'accueillir un ou deux enfants il les rassurait en affirmant que ce ne serait que temporaire, le temps pour nous de trouver un moyen de rejoindre d'autres étudiants à la cathédrale s'étendre. Mais en réalité, c'était une illusion, car personne ne savait encore comment la situation allait évoluer. Une famille musulmane a accepté de nous recueillir, moi et mes sœurs Edith, Madoudou et Josiane. Le reste de ma famille ont également trouvé un refuge temporaire ailleurs. Aux alentours de 6 heures du matin de cet avril, notre maison était en train de partir en fumée. Les miliciens Inhelahamin pensant nous avoir pris de court, ont lancé des grenades sur notre domicile, espérant nous surprendre à l'intérieur. Impuissants, nous avons observé à travers les fenêtres de nos voisins, les flammes ravageaient notre maison, tandis qu'une épaisse et impressionnante fumée noire s'élevait dans le ciel. En moins de 10 minutes, tout avait été réduit en cendres. Quelques instants plus tard, les extrémistes hutus ont célébré leur acte en criant en plein poumon à Kinyanzi Kashobotsi. Ça se traduit en français, on les a eu ces cafards. Nous ne sommes pas restés longtemps chez nos voisins dans nos cachettes, malgré la bienveillance de certains voisins. Car le conseiller du secteur Virjogo, Amuri Karekezi, a fini par apprendre que nous avions survécu. Il a alors convoqué une réunion de quartier qualifiée de réunion de sécurité, au cours de laquelle il a ordonné à tous ceux qui cachaient les Tutsis de les chasser immédiatement. Il a également annoncé que des perquisitions seraient menées dans chaque maison. Craignant pour leur sécurité, nos voisins n'ont eu d'autre choix que de s'exécuter. Nous nous sommes ainsi retrouvés livrés à nous-mêmes sans refuge. Chez nous, il ne restait plus que quelques murs debout. Nous sommes allés dans la maison de mon oncle, qui n'avait pas été détruite totalement, car seule une petite partie de la cuisine était restée couverte. On nous a forcés à nous entasser dans cette cuisine à moitié couverte, le reste de la maison ayant déjà été réduit en cendres. Quelques voisins, au péril de leur vie, nous apportaient discrètement de quoi manger. C'était la saison des grandes pluies et nous n'avions pas de toit pour nous abriter. Nous étions exposés aux intempéries. Notre frère Olivier a contracté très gravement la malaria. Il est devenu très affaibli. Il n'avait plus la force d'avaler quoi que ce soit. Paradoxalement, malgré l'ouverture laissée par le toit détruit, l'air restait irrespirable. La fumée persistante la rendait toxique, étouffant nos poumons et aggravant notre état. Nous étions tous affaiblis, mais Olivier était le plus gravement atteint. Nous sommes restés dans ces décombres jusqu'au matin du 18 avril. Ce jour-là, vers 10 heures du matin, un groupe d'Inhelahamin
s'est dirigé vers nous en sifflant bruyamment, et à leur tête se trouvait un certain Jean-Pierre qui se faisait appeler Ninja. En entendant ces sifflets de plus en plus proche de nous, ma mère et mon frère Serge ont eu le réflexe de nous faire passer par la fenêtre, ma sœur Josiane et moi. Maman nous a ordonné de courir chez Christine, une amie de son groupe de prière, dont le mari travaillait au bureau du secteur Ville-de-Go, sous les ordres de Amouli Kalitiesi, le conseiller du secteur. Notre frère Olivier a tenté de nous suivre, essayant tant bien que mal de se tenir debout puisqu'il était gravement malade. Mais il ne pouvait pas courir à notre rythme. Il est resté caché dans les toilettes chez les voisins. Nous sommes arrivés chez Christine. Son mari était absent. Elle dormait paisiblement dans sa chambre, inconsciente du drame qui se jouait dehors. Comme nous connaissions la maison, nous nous sommes discrètement réfugiés dans la chambre voisine de la sienne et nous avons rampé sous le lit. Quelques minutes plus tard, plusieurs coups de feu ont retenti. Nous avons immédiatement compris ce qui venait de se passer. Notre famille venait d'être massacrée. Cette fois, c'était bien réel. Nous avions réussi à survivre jusque-là, mais comme il avait scandé quelques jours avant, en criant à Kinyanzi Kashorotse, leur menace s'était finalement réalisée. Tout était terminé. Sous le lit, ma sœur Josiane et moi avons tenté d'étouffer nos pleurs pour ne pas faire de bruit et attirer l'attention. Dans cette maison vivait également Laetitia, une cousine de Christine qui nous connaissait bien. Lorsqu'elle est entrée dans la chambre quelques heures plus tard, elle nous a entendus en train de pleurer. Elle nous a découvertes sous le lit d'une voix tremblante et nous a annoncé que notre famille avait été tuée et que leur corps gisait sous la pluie, abandonné d'Allah. Christine s'est réveillée un peu après. Et lorsqu'elle a appris ce qui venait de se passer, elle n'a pas hésité à nous chasser en affirmant que son mari n'accepterait jamais de nous trouver chez eux. En sortant de là, une voisine Hutu nous a fait signe de faire demi-tour, car Ninja faisait le tour du quartier à notre recherche. En observant cela depuis sa cachette, depuis les toilettes de chez les voisins, Olivier a eu l'idée de faire diversion. Il est sorti en courant. En courant dans l'autre sens. Et Ninja et sa troupe se sont lancés à sa poursuite pour le parc. c'est comme ça qu'il nous a sauvé la vie. Ne sachant pas où aller, nous sommes restés dehors, sous la pluie, jusqu'à ce qu'un voisin, qui s'appelait Claude, nous ouvre la porte de chez lui pour nous abriter. Il nous a alors appris que notre oncle Joseph était toujours en vie. Depuis chez Claude, nous avons vu certains habitants du quartier se mobiliser pour collecter les draps et les pagnes avec lesquels ils ont pu enterrer notre famille dans notre jardin. Plus tard, nous avons retrouvé notre oncle Joseph et nous sommes retournés chez lui. Cette fois-ci, avec moins de peur de mourir, sachant que cela finirait par arriver un jour ou l'autre. Quelques voisins informés de notre survie nous ont aidés à plusieurs reprises à nous trouver de nouvelles cachettes et en nous apportant discrètement de l'eau à boire, voire même en nous permettant de nous laver des fois. Nous avons ainsi vécu en changeant de cachette presque chaque jour. Vers les derniers jours du génocide, certains voisins autour nous ont trouvé une cachette dans un buisson près d'une canalisation des eaux de pluie, le Houloula. Ils ont même érigé une barrière près de cette cachette et nous ont protégés jusqu'à l'arrivée du FPR. Qui a libéré le pays et mis fin à ce calvaire. Quant à notre petite sœur Chuzuzo, elle avait été recueillie par un couple d'amis, amis proches de la famille, le couple Pérouf et Samuel. Ils ont fait preuve d'un courage remarquable en réussissant à la protéger tout au long du génocide. À plusieurs reprises, ils ont affronté Ninja qui venait pour l'amener et l'exécuter, mais sans jamais y parvenir. À l'approche des derniers jours du génocide, alors qu'ils fuyaient le pays, Pérus et Samuel ont pris la décision, une décision capitale. Ils ont amené ma sœur avec eux, la faisant passer pour leur nièce. Tout au long de l'exode, y compris dans les camps des réfugiés, aux Zaïre, jusqu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, ils ont risqué leur vie pour elle. Même lorsque les inhérents la reconnaissaient dans les camps, ils n'ont pas reculé. Ils ont tout sacrifié pour la sauver en mettant en danger leur famille. Leur bravoure et leur détermination ont permis à Chuzuzo de survivre. Seul notre frère Régis avait réussi à trouver un refuge dans un autre quartier, près de Lébélo, chez une cousine mariée à un Tanzanien. Il espérait alors que la maison d'un étranger passerait inaperçue et échapperait aux perquisitions. Mais l'illusion n'a pas duré. Il a fini par être découvert, victime d'une dénonciation. Capturé, il a été amené au bureau du secteur Bidjogo, à Namirambo, où il a été exécuté de la manière la plus barbare. Brûlé vif dans un pneu. Plus tard, après le génocide, lors du procès d'Amuri Karikyezi, le conseil du secteur Bidjogo, nous avons appris Nous avons appris ce qui s'était réellement passé le jour où Olivier avait été capturé par les Inerames. Son fils l'avait conduit chez son père, non pas pour le livrer, mais pour le supplier de le protéger. Ils étaient amis depuis l'enfance. Mais malgré cette proximité, Amri Kalechezi a trahi son propre fils en livrant Olivier au bourreau, à son insu. Il a été amené au bureau du secteur Bilidogo. Olivier, et c'est là où Olivier a été exécuté. Son corps, encore agonisant, fut ensuite jeté aux chiens affamés pour qu'il achève. Toutes ces personnes dont je viens de vous parler avaient des rêves, des ambitions, l'espoir d'un avenir meilleur. Ma sœur Edita, par exemple, était sur le point de se marier. Toute la famille se préparait avec joie à célébrer cet événement tant attendu. Mon frère et Serge terminaient ses études à la faculté des lettres à l'université de Nyakinama dans la région de Ruhengeri. Ils nourrissaient le projet ambitieux de poursuivre un troisième cycle à l'université de Michigan. Aux États-Unis, un rêve qui semblait à portée de main. Ma sœur Ariette Madoudou, que nous appelions Madoudou, elle était pleine de douceur et d'empathie et s'épanouissait dans ses études d'infirmière, portée par une véritable vocation d'aider les autres. Olivier, quant à lui, avait tout juste 18 ans. Il vivait pleinement son adolescence, insouciant et curieux, déjà attiré par des belles choses de la vie. Régis, de son côté, brillait dans ses études d'économie à l'Université nationale du Rwanda. Il était passionné et entreprenant. Il était promis à un avenir radieux. Il avait déjà en lui l'âme d'un bâtisseur, le sens du commerce et de l'innovation. Si je témoigne, c'est surtout en ces jours si chargés de mémoire, c'est parce que je souhaite que mon message contribue à éveiller les consciences, en particulier chez les jeunes, afin de bâtir un avenir fondé sur la paix, la dignité et l'humanité. En tant que rescapée du génocide des Tutsis, j'ai fait le choix de partager mon histoire pour que les jeunes générations puissent apprendre de ce passé. Avec le soutien de la Ligue de l'enseignement et de Bouca France, à travers les interventions scolaires, mon objectif restait clair. C'est de dénoncer la haine et le discours de division qui circulent librement, notamment sur les réseaux sociaux, et qui influencent les jeunes d'une façon très dangereuse. Mon objectif, c'est aussi de les inciter à rejeter ces discours, qu'ils soient d'origine politique, médiatique ou sociale. Leur apprendre à ne pas suivre aveuglément une idéologie d'un ou un groupe, sans interroger leurs valeurs. Leur faire comprendre que chacun porte une responsabilité dans la prévention des injustices et des violences. Car, malheureusement, les discours de haine et les propagandes n'ont pas disparu. Ils y prennent de nouvelles formes, mais véhiculent les mêmes poisons. Il est essentiel d'apprendre du passé. Les témoignages des survivants rappellent que le génocide n'est pas un simple événement historique, mais une tragédie humaine qui peut se répéter si la vigilance s'effrite. Le plus jamais ça ne doit pas être un slogan. Il doit devenir une réalité vivante, ancrée dans nos consciences et nos actions. Pour conclure, avec mes camarades, nous souhaitions exprimer notre profonde gratitude à Ivuka France pour son engagement constant aux côtés des rescapés du génocide. L'association met en œuvre des actions concrètes pour écouter, soutenir et répondre aux besoins des survivants. Un engagement d'autant plus crucial aujourd'hui, à l'heure où les discours de haine surgissent, ravivant les blessures et les traumatismes. Ivuka France a su intégrer un véritable espace de parole et d'échanges où les rescapés sont accueillis et écoutés par les professionnels. Chaque année, elle organise également un week-end de retraite dédié aux survivants. Ces moments précieux nous offrent un temps de répit, d'accompagnement psychologique et thérapeutique, mais aussi un espace de partage et de solidarité et de reconstruction. Je vous remercie.